So it's my pleasure to welcome Sandra Velasquez. Sandra is professor at Universidad Nacional de Colombia, Department of Ciencias Humanas, Humanias, so human sciences. She's also a doctoral student at the Sciences de l'Information et de la Communication in the Université Michel de Montaigne in Bordeaux, France. She's preparing a doctoral dissertation on the independent record industry of traditional music in Colombia. The title of her paper, and I'm going to just translate and then switch it back to French, is When the Musician Becomes Producer, a Trajectory that Plays in Favor of the Productions of Traditional Music. Quand le musicien devient producteur, un parcours qui joue en faveur des productions de musique traditionnelle. Sandra?
Et je vais présenter en français, excusez-moi. Mais quand le musicien devient aussi producteur, c'est un parcours qui joue en faveur des productions de musique traditionnelle. On va aller voir pourquoi le changement de rôle devient un bénéfice pour la musique traditionnelle. Et avant de commencer, je vais vous présenter trois petits morceaux de musique. La première, ça vient du sud de la Colombie, à la frontière avec l'Équateur. Et c'est le groupe Bambara Banda, c'est de la nouvelle chanson colombienne. Et la deuxième, en fait, ce n'était pas une musique, c'est une histoire. C'est le musicien qui a décidé de faire une production avec une histoire. Et la troisième, c'est... La deuxième, excusez-moi, c'est du milieu de la Colombie, et la région du café. Et la troisième, c'est de la côte atlantique, la région caribéenne. Et je vais vous montrer la troisième, en fait, c'était parce que c'est des musiciens qui ont modifié les instruments pour, avec qui ils ont connu tous les appareils de son et tout ça.
Quinceañera extrovertida, con una sonrisa abierta, rebosante de alegría, dizque a presentarme el novio, un niñito que medía a lo sumo 1,20 y cara de lampiño.
Travail que je vais présenter, comme Len avait dit, et ça a été parti d'une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. J'ai travaillé sur l'angle de la diversité culturelle parce que je me suis demandé pourquoi il y avait des musiques qui sont présentes dans les concerts ou qui sont présentes dans des milieux très... très précis comme les festivals, mais qu'ils ne passent pas par la radio, qu'ils ne passent pas par les médias. Et j'ai travaillé deux régions, la région andine et la région caraïbe dans mon pays. La région andine, c'est très très grand dans mon pays parce qu'il commence à la frontière avec l'Équateur et il finit à la frontière avec le Venezuela. Donc il y avait une très grande diversité dedans. Et j'ai travaillé aussi la région Caraïbe, que c'est tout au nord de la Colombie, Et dans la région Caraïbe, on avait des influences de Caraïbes et de Cuba, des îles et tout. Et pour moi, la diversité culturelle de l'industrie phonographique indépendante colombienne est garantie par la nécessité d'expression des créateurs. Il y avait un besoin de communication, de montrer leur travail, et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer, à changer de rôle. Et le besoin de communication se fait par des musiciens qui deviennent producteurs ou bien par des producteurs qui ont des petits labels et qui produisent des musiques indépendantes. Mais ni l'État ni les organismes internationaux s'occupent ou donnent des subventions pour ce type de production. J'avais choisi comme théorie les cultural studies parce que je travaille depuis un mois avec les musiciens et je recherche quelles sont les formes, quelles sont les alternatives qui font les musiciens pour avoir une production devant le public. Et je viens aimer travailler comme méthodologie les récits de vie parce qu'il m'a permis de voir la relation avec les institutions, avec les publics, en fait, c'est avec la méthodologie de récit de vie que j'ai pu voir comment les musiciens sont devenus producteurs pas récemment. C'est depuis le début de l'industrie phonographique en Colombie. Depuis 1940, les musiciens ont cherché toujours de produire parce qu'ils n'ont pas accès à les industries phonographiques, mais ils ont fait des contrats avec les maisons de production phonographique pour pouvoir communiquer sa musique. Et, dans le passé, les musiciens ont été maltraités par l'industrie de la musique. Et, les compagnies changent des offres pour la production finale. Des fois, ils enlèvent des instruments parce qu'ils ne comprenaient pas les sons. Par exemple, avec le tiple, que c'est une petite guitare en Colombie, le son, c'est très, très, très compliqué pour les personnes qui font l'addition. Elles disent « Oh non, 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 ce n'est pas important. » Ils l'enlèvent. Mais les compagnies ont changé aussi le nom des groupes. Parce qu'au début de l'industrie phonographique en Colombie, l'industrie nationale a produit des musiques, mais en disant « j'ai un groupe dans mon compagnie ». Mais ce n'était pas vrai. C'est le groupe au départ, il arrivait « d'accord, je vais enregistrer, mon nom c'est Familia Cadavid », mais à la fin, il est montré comme Estudiantina Fuentes. Et Fuentes, c'était le nom de la maison de disques. Et ils n'ont pas reconnu les droits d'auteur. Ils l'ont payé seulement pour l'enregistrement, mais ils ne l'ont pas payé pour les droits d'auteur. Et c'est pour cela que les musiciens cherchaient toujours de se produire. Mais plus récemment, après 1990, les majors ont rentré dans mon pays et ils ont acheté des labels nationaux. Mais les cas dans la région andine et les cas dans la région caraïbe sont un peu différents. Parce que pour la région andine, ils produisent que les catalogues, seulement les catalogues. En fait, la région andine s'était considérée dans le passé comme la musique nationale. Ils ont resté seulement dans les anciens musiciens parce que c'est très, très, très rentable pour le business. Et dans la région Caraïbe, par contre, ils produisent les Star System. Mais ils l'ont toujours en cherchant qu'il peut être les stars pour produire. Et pour les musiciens, le schéma est très, très, très fermé. Dans les deux régions, même si les cas sont différents. Et c'est pour cela que les musiciens commencent pour s'autoproduire. Ils commencent à produire sa musique Après, il devient producteur pour des amis, pour des autres musiciens. Et dans son troisième niveau, il développe une activité professionnelle. Il crée sa petite maison de production, même si c'est très, très, très limité. Maintenant, tu peux...
OK, so, in summary, the question she wants to ask is, how come their starting point, that's related. Starting point is musical literacy. So there's tons of music that is being played in Colombia, and lots of it doesn't go through the media, doesn't go through radio and so on. So the question was, how did it go? And how did it come to be public? And how did people... So that got me thinking about looking at two regions where music is really very salient. So the region of the Andes and the Caribbean side of Colombia. And looking at quote-unquote traditional music that is being played there, but questioning the practices of the musicians who, for a long time, so not recently, have started becoming producers of their own music, given that there was lack of support from the state, and especially because of the lack of, or I should say, how the recording industry in Colombia mistreated those musicians by either changing the sounds through the production, so disregarding some instruments because they didn't understand the role of this particular instrument in the songs, changing the names of the groups because it didn't sound good enough, or not recognizing their copyrights and stuff like that. So overall, so they started doing that as of the 1920s and 30s, so it's not a recent thing that they're becoming producers, but the emphasis came in the 80s and 90s, where the majors came in, bought some of the catalogs, and in other cases started producing artists, but again, not all the ones that were playing these kinds of music. So first, the movement she's going to talk to us about is how musicians started producing their own music for lack of being supported, and then started producing their friends, and later on became producers with a small label that they created, even if it was at a small scale, it became important.
Mm-hmm. Thank you. The producteurs sont des musiciens professionnels, mais ils sont aussi des amateurs. Il y a une différence. Parce que les musiciens qui ont plus de 40 ans, ils ont commencé avec une idée que l'industrie s'est mauvaise pour eux. Mais par contre, les musiciens qui sont jeunes, ils sont nés avec l'idée qu'il faut travailler avec, mais en restant être indépendante. Mais ils font quelquefois ils font des contrats, mais ils restent indépendants. Mais pour les musiciens qui sont jeunes, ils pensent que c'est mieux d'avoir l'activité, faire la musique comme activité professionnelle. Et les productions se font dans des petits studios ou bien dans des studios professionnels. Mais pour les musiciens, la production est un moyen d'apprentissage. La plupart des productions de musique traditionnelle se font en direct. Ça demande une très grande exigence pour les musiciens parce qu'il faut jouer perfectement. Mais pour eux, c'est bien de le faire en direct parce que ça crée l'ambiance du concert qu'ils aiment bien. Mais c'est aussi un moyen d'apprentissage parce qu'après l'enregistrement, ils écoutent, ils développent le sens critique par rapport à leur œuvre. Mais la production, c'est aussi un document d'identité. Et c'est la façon de montrer leur œuvre. Ils n'ont pas le droit de passer par la radio, donc ils ont besoin de la production pour participer dans les festivals, pour se présenter devant le public. Et c'est aussi une manière d'atteindre l'échange avec des autres musiciens. C'est avec l'enregistrement qu'on a vu que, par exemple, les premiers groupes que vous avez entendus avant, Il avait eu un contact avec un groupe en Croatie. Et c'est parce qu'il a publié une œuvre à l'Internet. Et pour un groupe en Croatie, a été parfait. Et ils ont voulu faire des changes, même faire l'interprétation de l'œuvre. Parce que pour les groupes en Croatie, c'est très proche à leur musique traditionnelle. Et c'est pour cela que j'ai dit que la production, c'est une façon d'approcher le travail entre musique n'importe dans quel pays. Mais dans le cadre de mon travail, j'avais trouvé trois types de productions dans lesquelles les musiciens travaillent de différentes manières et portent différents rôles. Dans la production, les musiciens, bien sûr, c'est ce qui fait tout. Il y a deux manières. C'est la manière formelle, que c'est quand les musiciens respectent toutes les normes pour faire la production, payent les droits d'auteur et tout ça. Mais la plupart des autoproductions sont informelles. Ça veut dire que les musiciens font dans sa maison l'enregistrement et tout, ils ne payent pas les droits d'auteur, ils restent dans sa condition de musicien, mais pas dans le rôle de producteur. Et pour lui, c'est plus facile et c'est bien pour avoir des ressources économiques. Et dans le deuxième type de production, ça sont des productions institutionnelles. Ça veut dire les festivals qui font une production pour montrer la version de l'année de la musique, tout ça. Mais dans ce type de production, les musiciens travaillent des fois comme producteurs artistiques. Des fois, ils participent comme musiciens dans les productions. Mais dans ces cas-là, les institutions peuvent être aussi les institutions du gouvernement, ou ça peut être une compagnie privée qui produit la musique pour les clients. Mais il y a aussi un troisième type de production, que c'est la production, c'est les petites maisons de production. Et normalement, les musiciens font des contrats avec la petite maison de production pour avoir la distribution ou pour avoir l'édition professionnelle. Quels sont les bénéfices de devenir producteur pour les musiciens? D'abord, la liberté. Et nous avons vu l'histoire, les morceaux d'histoire qu'on a entendus tout à l'heure. Et on trouve dans les musiques traditionnelles des différentes productions, des musiques traditionnelles pour les enfants, des histoires. Il y a toute la liberté pour créer parce qu'ils n'ont pas de contraintes. Même s'ils n'ont pas de ressources économiques, ils n'ont pas de contrat au niveau de la création. L'autre chose, c'est l'innovation. Quand on voit les productions de musique traditionnelle, on peut voir que c'est un patrimoine vivant, que c'est la musique qui change. Mais si on voit les productions de major, on croit qu'on est dans 1960, à peu près. Et l'autre chose, c'est qu'avec la production, les musiciens arrivent à des connaissances nouvelles. Ils développent des savoir-faire dans les domaines de l'ingénierie de son, même dans le commerce. Et plus précisément, par rapport à la qualité de son, les musiciens, après la production, ils commencent à chercher de nouveaux systèmes. Ils changent les instruments, comme on avait vu tout à l'heure. Et pour avoir une meilleure production, pour que la musique puisse être de qualité pour le public. Et pour le public, justement, la production reste après le concert. C'est la façon de montrer leur œuvre. Et c'est très curieux parce que quand on est dans les événements de musique, les personnes connaissent les œuvres, les personnes chantent. Et on se demande, mais comment, si ça ne passe pas par la radio? D'accord, ils ne passent pas par la radio, mais ils passent par la production. Et la production se répète dans la région Caraïbe. Il y a une pratique qui s'appelle hacer sonar. Quand la production est nouvelle, les personnes achètent la production, ils la passent, jusqu'à toutes les chansons sont dans la tête. Après, ils profitent de la production. Mais la production, c'est aussi la reconnaissance du créateur. Et ça, rendre des bénéfices par rapport à son activité. Et avec les organismes de l'État, avec l'entreprise privée. Dans la région andine, la production est devenue une alternative. Parce que comme ils n'ont pas des opportunités, parce que les majors sont intéressés que dans les catalogues, c'est une alternative pour montrer leur musique. Mais dans la région Caraïbe, des fois, la production, c'est un point. Parce que les musiciens indépendants qui voulaient être dans les majors, ils doivent produire pour avoir la reconnaissance, mais aussi pour aller voir les majors pour avoir un contrat. Et finalement, la production est une exigence qui s'impose aux musiciens comme un outil et comme une pratique. Elle fait partie intégrante de leur activité musicale par-delà de leur inclination naturelle vers le spectacle vivant. Pour les musiciens, la production est importante pour la connexion avec le spectacle vivant, mais normalement, mais pas pour la production même. Seulement quand les musiciens sont devenus producteurs, la production est importante. Mais pour les musiciens qui voulaient avoir beaucoup plus de contrats pour les concerts ou qui voulaient avoir des échanges, le plus important, c'est jouer en public. Merci.
You guys can follow the main topics that are there on the screen. So one of the things is the way she differentiated between the professional musicians and the non-professional, the amateur. In the sense that going back to the fact that for the older musicians, older being about, they sort of assume that the industry is bad. But the younger ones were more inclined to work with the industry, sort of make do of how the industry would function. So that changed the way both groups of musicians would look at production. One as a training ground, and for many it's a training ground, especially for live production, because when they do produce, they do so in a studio and make live the cast. They don't rehearse and do it 25 different times. They do one cast and then one piece, the song. I don't know how to say
take.
That. One take and it's live. So they have to be good at it. The second one is that their production is used as a marker of identity. Given that they don't play in the media and so on, it's become their sort of trademark and their something that they can show and say we're there when they want to play in festivals and places like that. The other part is that, especially for the first group, it's a way to get in touch with other musicians. See, she gave the example of a group who got into contact with another group in Croatia because their music resembled the one that they play, and that was the first one, I think, the first one we heard. So they, for them, the production meant that, the possibility of getting in touch. Three types of production she identified. One is self-production, where either it's formal, respecting rules, the way it's supposed to be done, copyright, and so on, but mostly informal, where people do as they can. They take their own role as musician, mainly, and then do the production accordingly. The second one is more institutional production, the way that musicians act as artistic producers for festivals, for different kinds of private concerts, or different types of government-produced events. The last one is the producers who start their own small labels, where production is used mainly as a key to distribution. The last element that you were talking about, the one before last, challenges liberty. So how can they stay as far away from constraints as possible? That's through production. The second one is innovation. In the field of traditional music, the way it's been played, it's really key. Innovation is key to patrimoine vivant. It's something heritage,
living
heritage. Exactly, thank you. Mm-hmm. It's living heritage, so it's important that it goes on changing and being alive, living. The third one is challenge is the quality of the sound. Producers, when they start moving their role from musicians to producers, start wanting to play and develop and be keen on focusing on instruments, on different types of ways of getting the sound better. The conclusion is about what it does. What does production do? One is it gives the musicians and their producers in different regions an access to the public. So it really is a way in which after the live concerts, where most of the music is being played and circulated, people have something. And she gave the example of people that the moment that the production is circulated on the internet, for instance, people will start listening and listening mm-hmm. and listening and committing the sound and the lyrics to their memory so that they can sing along at the next event. So even though it doesn't circulate through the media, people know the songs and they can participate. And the last one is important, is recognition, so they get more recognition of their music through the production. There's a difference between the Andy region and the Caribbean region. In one case, it's more of an alternative to what's happening, and the other one is more of an opportunity. All of this, the conclusion being that production is becoming more and more of a requirement for the musicians if they want to get the public recognition and if they want to have their music circulated. Mm-hmm. And that was,
thank you. Thank you.
So, questions?
Yes.
Are you going to start us?
Yeah,
okay. Okay.
Just say your thing, I'm can't say it. Okay, so, est-ce qu'il y a des barrières pour les femmes ou les hommes avec la technologie? Je veux savoir si, avec les musiciens traditionnels, si peut-être il y a des hommes qui sont plus confortables avec la technologie, ou est-ce qu'il y a encore des groupes pour les femmes aussi? Est-ce qu'on voit des patterns
différentes
avec les sexes, comme ça?
Pour la technologie, non. Mais pour dans les domaines de la musique traditionnelle, les troisièmes groupes qu'on avait entendus, normalement, c'est la musique d'une petite région dans les Caraïbes. Et les instruments que vous avez vus, c'est que pour les hommes, au départ. Mais maintenant, c'est pour les femmes aussi. Et dans les festivals, ils ont commencé à accepter les femmes. Mais pour la technologie de son, non. C'est seulement pour les instruments qui a changé.
Et les enregistrements, mm-hmm. la production pour les enregistrements, est-ce qu'il y a des femmes qui les font aussi?
Oui.
Tu veux juste poser ta propre question? Sure, just asking if there was a pattern about gender access to making recordings and thinking about traditional musicians that would have privileged men's involvement with the mm-hmm. access to women throughout the music. Yes, women's
involved. Normally, it's for the men. Normally, it's, but there are the women.
Ça serait l'homme qui est un peu underground finalement de musique traditionnelle, mais justement, est-ce qu'elle est underground? Le fait qu'elle soit pas capable nécessairement d'être signée par des majors ou d'aller à des majors, est-ce qu'en Colombie, la musique traditionnelle circule quand même beaucoup? Et est-ce qu'ils réussissent quand même à avoir un succès commercial avec ces productions-là plus Est-ce que c'était le cinq finalement qui commercialement qui a eu un succès commercial, malgré le fait qu'il y ait des espoirs à être signé par les organisés, c'est plus important.
En Colombie, la musique traditionnelle, c'est un underground, la plupart de musique traditionnelle. Mais quand les groupes commencent et quand les groupes sont très importants, des fois, les majors achètent les groupes, ça passe. Mais pour la plupart des musiciens de musique traditionnelle, il faut rester indépendant. Et par choix, oui, c'est un choix. Dans la musique, dans les industries culturelles, normalement, on voit qu'il y a des relations entre les majors et les indies, et que c'est une relation fonctionnelle, on va dire comme ça. Mais dans les milieux de la musique traditionnelle, pas tout le temps. Il y a des musiciens qui voulaient rester indépendants, même si, s'ils sont jeunes, s'ils sont... mais pas bien, mais ils voulaient respecter sa condition d'indépendant parce que ça leur permet d'être libre, d'avoir la liberté de création.
The question was whether or not the scene is an underground, is this traditional music in Colombia an underground thing, and despite the fact that it would be underground, can it make some kind of, is it viable, commercially viable? Mm-hmm. And she differentiated between the fact that some groups want to become a bit more important and probably more popular, can be signed by majors, but who buy their contracts, sort of. But she was saying basically most of the groups want to maintain a distance and keep their independence. And that questions the relationship between indies and majors in a different way in Colombia and in some other places. Mm-hmm. Can I ask one? And then maybe je vais le faire en français, si tu veux. Une des choses que je trouve intéressante, c'est comment la différence au début entre le fait que tu sois professionnel ou amateur me semble ne pas être importante en cours de vous. C'est-à-dire, dans la manière dont vous avez présenté les différences entre les formes de production, tout ça. J'ai pas entendu quelque chose qui disait les amateurs font ceci, les professionnels font cela. Donc, je suis intéressée par ce rapport-là, la présence des deux. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être professionnel ou non joue de quelque manière et si oui, comment?
Il faut aller dans le passé. Parce que dans les 1960, à peu près, les écoles, les universités ont créé des programmes de musique, mais aussi d'anthropologie, où il y avait des programmes d'anthropologie et tout. Et les étudiants voulaient aller chercher les musiciens. Et ils ont commencé à faire des enregistrements pour la recherche au départ. Ils ont commencé à faire des échanges avec les musiciens empiriques, on dit comme ça. Mais ça, c'est le départ. Maintenant, on trouve une relation très proche entre les musiciens qui ont resté toujours au milieu rural, par exemple, et avec les étudiants qui ont développé la connaissance de la musique, ou même du son, dans les universités. Et pour moi, c'est magnifique parce qu'il y a la relation en double sens. Et c'est très curieux parce qu'au départ, dans les années 1960, les étudiants qui ont commencé, ils voulaient changer les paroles, ils voulaient changer les rythmes, parce qu'ils ils sont nés dans les milieux urbains, pas dans les milieux ruraux. Et pour eux, les chambres, les plans et tout, ça fait rien, mais c'est une autre réalité. Et au départ, c'était le choc avec les institutions et les festivals parce que c'était pas la musique traditionnelle, c'est quoi ça, pourquoi vous chantez à les problèmes urbains. Mais maintenant, ça se calme, il y a les, il y a une richesse qui se partage entre les milieux ruraux et les milieux urbains, entre les amateurs et les professionnels. C'était pas mal vu si vous êtes professionnel ou si vous êtes amateur.
Just a quick translation. I was asking you about the difference because from the beginning of her paper, she presents the fact that it's about both professional and non-professional producers. So I was wondering, because throughout the paper, did you see where that fit in? So the answer is more, interestingly, less the importance, and she says you have to go back because it changed through time. In the 60s, the important difference was more between the nascent university-based formal training musicians who did field recordings, anthropologists too, did field recordings, and were interested in the music that was being done by those amateurs, those non-professional. Mm-hmm. Now, there's more of an exchange, and both ways, as mm-hmm. she was saying, between the ones with formal training, which would be more the professional, and then ones without the training, and that in festivals, the exchange is more present mm-hmm. than the confrontation that used to happen. And one of the important distinctions she mentioned is between the rural and the urban, way more than necessarily just the professional and non-professional. Mm-hmm. Thank you so much.
Thank you.
Merci.